Hello, I'm Maisie Adam, and you're about to listen to a set performed by me at the Cavendish Comedy Club in London. Oh, I'm terrible with my money. I am. I'm absolutely terrible. Like I can't play Monopoly because it hits too close to home. Honestly, because what it is just going around London going, can't afford that, can't afford that. I've got nothing in the bank, and I can only dream of winning 50 quid in a beauty contest.
You might think you're terrible with money, but here's something. Did you know it's easier to save if you do it the day you're paid? Payday Save Day. Building a society of savers nationwide.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je pense que le fait de s'être craché de cette manière-là, ça nous a remis les épaules sur la tête.
On a attendu une fois la gifle, on va pas attendre la deuxième. Hein.
Mais j'espère que la route va vite tourner pour lui et surtout pour nous, parce que ça, on en a besoin.
C'est vrai que pour le moment, je suis en train de profiter. Comme on dit, le malheur des autres font le bonheur des autres. Et pour le moment, je suis en train de profiter.
Jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After est là en direct comme tous les soirs, bien sûr, l'After sur RMC, à la radio sur RMC Sport News, à la télé jusqu'à minuit, à partir de 21h tous les lundis, vous le savez, 3h d'After désormais, ce sera comme ça toute la saison dans l'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football ne pense pas encore. Daniel Riolo est là comme tous les lundis, Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Florent Gautreau, bien sûr.
Salut à tous.
Qui a repris sa place comme s'il ne l'avait jamais quitté. Ah ouais ? Il est là, hein. Taulier, quoi.
C'est marrant, il veut pas faire de commentaires.
Bon, non, mais je suis un joueur de devoir, donc je m'intègre facilement dans les équipes dans lesquelles je joue.
Un porteur d'eau, tu veux dire? Ouais,
tu portes
bien l'eau, hein.
Un taulier,
c'est de l'eau de luxe, c'est pas de la cristalline qu'il porte.
Non, c'est de l'eau qui pétille.
Mais minimum de la Châteldon, tu vois.
Damien Perrinel est avec nous ce soir, salut Damien.
Bonsoir tout le monde.
Voilà, il vient de Clairefontaine. Eh oui.
Allez. Qu'est-ce qui se passe à Clairefontaine?
Allez, on est en plein diplôme, en pleine formation.
Mais à l'école.
Voilà.
Entraîneur?
Eh oui, entraîneur. Ouais, pourquoi j'ai pas une tête à être entraîneur?
Sont des formateurs. Non, mais je veux en savoir plus, qui sont des formateurs.
Il n'y a personne de connu dans mes formateurs. Jean-Luc Vanucci, peut-être.
Ah, ouais.
Voilà.
Cela dit, hey, Damien, beau gosse.
Tu es un peu
dans la veine d'Hervé Renard, Brouard.
Tu veux un destin africain ou un destin Ligue 1?
Pourquoi pas? Attends, il y a des belles carrières qui peuvent se faire à l'étranger.
Je lui pose la question, je lui dis pas que c'est mieux ou moins bien. Je lui dis qu'est-ce qu'il veut comme destin.
Est-ce que j'ai le choix, tu penses, aujourd'hui? Je suis en position de choisir quoi que ce soit ou.
Voilà. J'aime bien avoir destin chinois aussi.
Donc, s'il y a quoi que ce soit, je vais prendre surtout. Pour faire ses preuves.
Je précise que les Drôles de l'âme seront là, bien sûr, comme tous les lundis, tout à l'heure, aux alentours de 22h30. Ma tour d'Europe complet, Julien Cazard à 23h, évidemment. Et l'événement ce soir dans l'After, c'est la région Rhône-Alpes qui part en vrille. Saint-Etienne et Lyon ont passé un sale week-end et se posent des questions. On va faire le point dans quelques minutes, bien sûr. Toutes les infos, notamment sur Ghislain Printemps, dans quelques secondes avec Édouard G. Et Florent, lui, veut parler de Silvinho. Damien veut parler du PSG qui gagne et de Thomas Meunier. Et puis, bien sûr, la Ligue 2 est également.
Voilà, Meunier, ça sent la jambe de bois, ça. Ça sent la jambe de bois.
Mais ça va dans ton sens certainement, non?
Moi je dis que ça sent la jambe de bois et que c'est normal.
Le déclat de hier soir, hein, de Thomas Meunier sur la jambe de bois.
Parce que c'est une remarque qui plaît à des défenseurs et tu étais un défenseur.
Exactement. Mais voilà. On a le temps d'y revenir tout à l'heure.
Exactement. Le 32-16 est ouvert bien sûr pour tous ces sujets. Le hashtag RMC Live si vous êtes sur Twitter et Direct Studio sur les applis RMC, RMC Sport bien sûr. Vous appuyez sur la petite radio en haut à droite et vous pouvez envoyer vos messages via Direct Studio. D'ailleurs sur les applis, retrouvez également nos podcasts. Podcasts du jour enregistrés cet après-midi sont tout frais. Il y a du Daniel Riolo, il y a du Manu Petit, il y a du Édouard G dans les podcasts Saint-Etienne, Lyon, Marseille, Paris bien sûr. Et puis on a la Ligue 2 avec le match du lundi ce soir, Lorient-Rodez. Xavier Grimaud, bonsoir.
Salut Gilbert, bonsoir messieurs. On est parti depuis 19 minutes. Rodez. Ouais, Rodez, le promu Rodez qui fait un bon début.
Découvrir que Rodez est en Ligue 2 là.
Exactement, ouais. Je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte de le dire, monsieur.
Ouais, on voit bien que tu ne suis pas trop à Ligue 2 sur les matchs du lundi.
Je n'ai pas honte de le dire, j'assume.
Mais Rodez fait un bon début de saison.
Jetez-moi des pierres si vous voulez.
Ils sont 8e, les joueurs de Rodez. Lorient a l'occasion, lui, de prendre tout simplement 3 points d'avance quand même en tête de la Ligue 2, puisque le Havre a été tenu en échec vendredi à Orléans. Pour ça, faut gagner. Les Lorientais qui ont plutôt la balle, mais il y a une frappe contrée par Sylvain Marvaux. Pour l'instant, ça manque d'occasion. Voilà, mais Lorient réussit un bon début de saison et donc est favori évidemment face à cette équipe de Rodez. 0-0 pour l'instant entre Lorient donc, et Rodez au Moustoir. Un Moustoir qui est très très vide. Hein. Il pleut, donc il va y avoir 5000 spectateurs, pas plus, pour cette affiche du lundi soir.
Et l'entraîneur de Rodez, pardon, Laurent Perlade, ceux qui se souviennent de ce joueur.
Ah oui.
Attaquant du Mans.
Ouais, attaquant du Mans. Beaucoup de Ligue 2. Mm. Bon attaquant. Voilà.
C'est
ouais,
la spécialité.
Et à l'époque, il y a une époque de Rodez. Il y a eu un autre moment pour Rodez qui était fort. Et c'était le.
Rodez PSG.
Non, la famille Poisson, je me souviens, le père et les fils jouaient, et le père ça était coach.
On va parler Ligue 2 pendant un quart d'heure, ça m'intéresse.
C'est comment, quel est le gentilé de Rodez?
Le
gentilé, c'est le nom des habitants de Rodez.
Les rues ténois.
Voilà. Voilà.
Je voulais planter
non,
Daniel.
Non, je savais parce que Rodez a joué
côté Ruth.
Un match de Coupe de France, parce que ça a été le club pendant un moment de la personne qui arrivera après 23h tout à l'heure.
C'est vrai. Julien Cazard aime beaucoup Rodez.
Voilà.
D'accord.
Tiens, je précise avant d'accueillir Edouard qui nous attend que dans une semaine pile là 21h05 nous serons dans le Nord. Eh oui. L'after tour démarre une fois par mois. On va aller dans les locaux des clubs de supporters. Et là, la semaine prochaine, on sera au Petit Wascal, le restaurant Le Petit Wascal, à côté de Lille.
On mange avant ou après?
Avec l'association de supporters lillois, les Dogs d'honneur, qui vont nous recevoir avec Le Petit Wascal.
Je me souviens que vous étiez venu à Boulogne.
À Boulogne, légendaire.
Et vous étiez bien reçu, hein, d'ailleurs.
Ah, magnifique.
Je pense qu'on ne mangera jamais aussi bien.
Le buffet de fruits de mer.
Le buffet Jacques Vatez.
Dans Ouaté. Ah, ouais.
Ouais. J'ai jamais su, c'était Vaté ou Vatès qu'on nous disait.
Vaté.
Jacques Vaté.
Vaté. Bon, peu importe, en tout cas, il recevait très bien avec les fruits de mer, là, on s'était gavé.
Donc, la semaine prochaine, vous pouvez tous venir, bien sûr, dans la limite des places disponibles, évidemment.
Si vous aimez la jambonnette.
Si, et voilà, et on va parler évidemment en LOSC, puisqu'on sera à l'avant-veille de Lille-Chelsea. Donc, on sera dans l'actu, là, à Lille, la semaine prochaine.
On viendra pour donner espoir, pour dire oui, les Lillois, oui, c'est possible. Et allez, oui, vous pouvez battre Chelsea.
Et aller Lille surtout demain en fait.
Pourquoi aller Lille?
Pour Survivor.
Il est à bloc sur Survivor. On fera le point tout à l'heure sur Survivor.
On va faire un bilan parce qu'on a déjà perdu des gens en route.
Tout à l'heure, on fera le point.
On a failli perdre Gilbert.
C'est l'autre nouveau jeu.
Ce jeu commence à me plaire beaucoup. J'aime bien l'idée. Non, mais j'aime bien l'idée. Toi, autant je me suis pas pris, et pourtant je sais que c'est bien, vous avez l'air de vous éclater à mon petit gazon. Mais je sais pas, j'aime. Mais autant Survivor, je trouve que c'est malin. J'aime bien l'idée.
L'idée est simple.
Daniel dit ça jusqu'à ce qu'il perde. Après, il va dire que c'est nul. Je le connais.
Non, alors
sur Survivor, on prend une équipe. Sans, je faisais une équipe en début de championnat ou de journée.
Non, pas du tout. Chaque journée, il faut que tu donnes une équipe qui va gagner le match, mais okay. Tu peux pas l'utiliser plusieurs fois ton équipe.
On faisait
je
ça.
Le dis une fois, voilà. Et c'est le dernier qui reste. Et
tu verras tout à l'heure que j'ai fait éclater tout le monde en un week-end.
Hein? Mais c'est dingue. C'est dingue. Il a misé sur Strasbourg. Alors. C'était le premier match de la journée, vendredi soir. Voilà. Il a chaté à mort avec un péno à les dernières minutes, et il dit qu'il a failli battre tout le monde. C'est quand même fou ça.
Mais c'est
vendredi soir.
Tu t'en sors bien.
Je regarde là.
J'étais mort de rire.
Je regarde le match et tout. Je me suis dit, oh, on va perdre Gilbert dès la première journée. J'étais déjà mort de rire. Et après, bon, l'entraîneur a tout changé.
Non, on joue à ça aux États-Unis.
Attends. T'as misé sur Nice. Ils ont marqué à la combienième, Nice?
Non, 47e. On menait 2-1 à la 47e. Enfin, non, je dis on, parce que.
Oui, bah, à partir du moment où c'est notre équipe.
Tu l'as vu la deuxième mi-temps?
Bah oui, en
partie. Il n'y a pas à voir. Nice, Dijon, c'était calé. C'était bouclé. Mais franchement, j'ai même pas transpiré une seconde. Nice, je savais que ça gagnerait.
À 0-1, ça m'a embêté.
Ah, je me suis dit, c'est bon.
Bon, on fera le point tout à l'heure sur Survivor. Là, tout de suite, on va prendre des nouvelles de Saint-Etienne avec Edouard G qui est avec nous. Edouard, bonsoir.
Bonsoir, messieurs.
Salut, Edouard. Hey, bonsoir, Edouard.
Salut. Correspondant de devoir, hein, Flo.
Ouais, je sais.
On est ensemble, au niveau du devoir.
Exactement. Edouard, journaliste de devoir. Alors, tu étais à Saint-Etienne aujourd'hui, Edouard.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on peut dire ce soir concernant la situation de Ghislain Printemps?
Eh bien, qu'il sera demain en conférence de presse à la veille du match face à Metz mercredi. Donc, sauf énorme changement d'ici mercredi, il sera sur le banc donc de cette rencontre pour une journée de décrassage à l'Etra où on ne l'a pas vu sur les terrains, mais ça c'est traditionnel un lendemain de match quand il y a décrassage. Ce sont ses adjoints Laurent Huard et Julien Sablé qui ont mené l'ensemble des séances, parce qu'il y en a deux. Il y a eu le footing de décrassage pour ceux qui ont joué hier. Et puis il y a eu un vrai entraînement pour ceux qui n'ont pas joué. On a vu notamment le retour de William Saliba, par exemple, qui peut postuler dès ce mercredi. Donc pour les défenseurs, ça peut être pas mal pour Saint-Etienne. Ghislain Printemps, donc, qui est resté dans les bureaux, qui était bien du côté de l'Etra, qui a eu un entretien avec son président et puis David Ventier. N'a pas filtré exactement tout ce qui s'est dit, mais une chose est sûre, le président Romeyer n'a pas demandé à Ghislain Printemps de partir. Par contre, on a bien mis la pression sur le thème. Mercredi, il faut absolument gagner et remettre le groupe dans le bon sens. Reste une donnée avec différentes infos qu'on a pu avoir avec Mohamed Bouafsier ou avec Loïc Tanzi. Clairement, même une victoire mercredi, ça ne devrait pas sauver la tête de Ghislain Printemps.
N'empêche, Edouard. Voilà.
Attends, donne toutes les infos parce qu'il y en a encore.
Pardon, vas-y.
Oui, donc voilà, ça ne devrait pas le sauver, en sachant qu'il y a beaucoup de noms qui circulent. Alors, un certain nombre de noms qu'on en a pu lire dès hier soir, de Jocelyn Gourvennec, Antoine Comboiré ou Claude Puel. Alors ça, il n'y a pas eu de contact avec eux. Si ces bruits circulent, c'est parce que ce sont des techniciens qui avaient été sondés au moment où il fallait remplacer Jean-Louis Gasset.
C'est les mecs qui cherchent des taf.
Voilà, en plus, concernant Jean-Louis Gasset, potentiellement de retour, visiblement c'est une piste qu'aimerait bien voir Bernard Caillazot. Est-ce que Roland Romeyer, ce serait sa feuille de route à lui? Pas sûr. En interne, on m'assure...
C'était pas super pote, hein.
Non. Et on m'assure en interne que voilà, c'est un retour de Gasset, c'est un petit peu comme quand vous retournez avec votre ex, quoi. En fait, forcément, ça va pas forcément faire des belles choses. Reste qu'on est dans une situation un peu de gris avant la crise, et franchement, même s'il y a victoire mercredi, franchement, les jours de Ghislain Printemps sont comptés, tout en sachant, parce que le constat en haut lieu, c'est ce qui réunit en fait les deux présidents, c'est que Ghislain Printemps ne fait pas la maille au niveau des cadres. En fait, c'est un bon formateur, mais pas
c'est eux qui l'ont voulu.
Non, mais c'est
et
ça.
Voilà, et ça,
mais
c'est là que
c'est ça que je voulais dire, c'est que s'il y a bien des responsables dans cette affaire, c'est surtout
exactement.
Pas Printemps,
comme
qui n'a rien demandé à personne, à qui on est allé proposer le poste, alors que fondamentalement, il n'a pas fait acte de candidature.
Non.
Que Gasset lui a dit c'est bon, j'ai négocié, et que lui-même était étonné de se voir proposer le poste. Que les dirigeants ont écouté certains joueurs. Qu'aujourd'hui, on se rende compte.
Certains ont dit on s'en va si c'est pas lui. Hein.
Mais oui,
MV, là.
Mais toute la gestion, exactement, toute la gestion de ce dossier est absolument lamentable. Et le pauvre Ghislain Printemps est absolument. Alors. Responsable de rien dans cette affaire-là.
Il y a un truc encore.
Lui, c'était normal. Excuse-moi, je termine. Je sais pas si t'es d'accord, mais même si lui avait pas vocation à ça, on te propose un poste pareil. Qu'est-ce que tu fais? Je tente le coup quand même. Vous êtes d'accord?
Ouais.
Je tente le coup. J'y vais.
Mais surtout, voilà. Lui, c'est vraiment un supporter de la première heure, hein, de Saint-Etienne. Il nous l'a souvent dit, par exemple, il était dans cette fameuse finale de Glasgow en 76. Donc forcément, c'est quelqu'un, si on lui dit bah, tu vas devenir numéro 1 à Saint-Etienne, tu fonces. Hein.
Il y a un truc quand même qui est récurrent à Saint-Etienne, c'est cette double direction qui pose toujours problème, parce que même pour Printemps, ils n'étaient pas tous sur la même longueur d'onde. Il y en a un qui était allé plus vite que l'autre, qui avait enclenché la première un après-midi de match pour lui proposer le poste. C'était déjà fait quand l'autre était pas encore au courant. Et il y a toujours ces divergences entre les deux présidents qui, in fine...
C'est que les deux présidents, le problème, c'est en fait de multiples canaux de décision.
Ouais, mais là déjà,
il y a plein de gens qui parlent. Il y a Ventier, Romeyer. Dans le club, ça parle de partout.
En sachant qu'il y a plus de directeur sportif. Hein.
Ouais, voilà. Et donc il y a quand même sur ces deux présidents. À chaque fois, il y en a un qui prend la main le plus vite. Il y a une sorte de rapport de force pour celui qui va le plus vite. Une fois que tu t'es engagé plus ou moins avec Printemps, par exemple, c'est compliqué. Sachant qu'en plus des joueurs eux-mêmes se sont mis dans la balance quand même, Villa, c'est compliqué d'aller faire l'inverse. Donc Romeyer s'est retrouvé un petit peu obligé de faire ça. Et maintenant, il passe des coups de fil à Gasset pour lui dire est-ce que tu pourrais revenir. Non, c'est pas sérieux.
C'est Caillazot ou Romeyer qui passe des coups de fil à Gasset? J'ai entendu dire que c'était plus Caillazot.
Plus Caillazot, parce que Romeyer et Gasset n'avaient pas
de. Mais il y a autre chose, c'est les feux de l'amour, Saint-Etienne. C'est-à-dire que là, tu as l'homme que tout le monde aimait, sauf un, c'est-à-dire Gasset, qui s'en va. Là-dessus, il veut être rappelé, Caillazot veut Gasset, sauf que Romeyer ne peut pas blairer Gasset. Au milieu, Ventier, il est plutôt pro-Gasset, Ventier, en l'occurrence, Edouard, hein, tu confirmes?
Oui, mais après, tu sais même plus qui est pro, qui...
Mais c'est ça, c'est qu'en fait, on se perd.
Gasset est proche de Printemps.
On sait pas vraiment
donc
comment ça fonctionne.
Non, mais tu peux imaginer que Printemps resterait comme numéro 2.
La bonne décision en fin de saison dernière, déjà, ça aurait été d'aller enfin, à partir du moment où Gasset ne restait pas, tu tournais la page de cette gestion sportive-là. Tu prenais un nouvel entraîneur, une nouvelle équipe. Maintenant, c'est ça qu'il faut faire. C'est pas aller rappeler Gasset. Ouais, prends un nouvel entraîneur et ouvre une nouvelle page.
Daniel, souviens-toi que c'est un air de déjà-vu. Déjà, à l'époque, quand ils prennent un entraîneur étranger, Oscar Garcia, ils sont pas en symbiose.
T'as absolument raison, ça avait été une cata.
Choix un peu atypique. Entraîneur étranger, on l'a viré au bout de 4 ou 5 journées, il me semble. Et là, encore une fois, on essaye de faire du neuf avec du vieux en rappelant Gasset. Mais il me semblait que moi, Gasset, il était fatigué, il voulait être à la retraite.
Oui, aussi, parce qu'il y a des problèmes avec sa femme. Voilà. Et, ouais, bien sûr.
Mais je veux dire, donc, en 4 mois, tout a changé, quoi. Il est requinqué. C'est dans Monaco aussi. Je veux dire, Jardim était dans le même cas. Ouais, il était exténué. Et là, on le reprend.
Jardim va se faire tirer pour une deuxième fois.
Ouais, mais justement, déjà, à ce niveau-là, juste excuse-moi de te couper, Florent. Par rapport à Monaco, ce matin, je m'attendais à ce qu'il y ait des banderoles. Je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu de mouvement de foule. Et en fait, il y avait une poignée de supporters. Il y avait limite plus de journalistes que de supporters. Mais certains supporters disaient, ceux qu'on a interrogés, on ne veut pas refaire ce qui s'est passé du côté de Monaco, quoi. Rappeler l'ancien pour qu'au final ça soit franchement il y a
non, là il faut du neuf là,
voilà, et on met en exergue peut-être le manque de charisme de Ghislain Printemps qui était derrière le charisme.
Non, mais ça, non, mais ça on découvre les mecs qui découvrent
c'est ça qui est assez bizarre. On est quoi, on est le 23 septembre, on découvre pas ça le 23 septembre. Ghislain Printemps était là depuis 18 mois.
Il y a un truc sur la structure du club effectivement qui est problématique, sur cette double responsabilité, sur, je vais dire, cette fainéantise qui a eu, cette flemme quelque part là de la part des dirigeants, parce que évidemment la solution de facilité apparente, qui était une grosse connerie, c'était de prendre l'adjoint de l'autre parce qu'il est bien. Et surtout la solution de facilité, c'est là où je veux en venir par rapport aux joueurs, parce que là c'est encore une fois la république des joueurs. Moi j'ai halluciné quand j'ai vu qu'Mvilla mettez dans la balance le fait que ce soit éventuellement Printemps, c'est-à-dire en gros, si c'est Printemps, moi mes habitudes et tout, c'est bon, je les garde, ça va, mais sinon je me casse.
Moi je le vire direct.
Ça, c'est pas possible.
Je le vire direct. Le donc, premier que je vire, c'est
Mvilla. Oui, mais ça veut dire qu'en choisissant Printemps.
Attendez, là on parle que d'Mvilla, mais de mémoire, il n'y avait pas que Mvilla.
Non, mais Mvilla a dit de manière très claire.
Il me semble.
Donc, je vais souvenir de Debuchy. Non,
mais à partir du moment.
Qui a sans doute donné son.
Gazerie, certainement, comme
ça, tu à partir du moment où tu fais ça, où tu laisses partir. Ça, c'est le management typique. T'es dans un club de foot, quoi, de haut niveau, et t'as les joueurs qui ont décidé qui voulait comme coach. Évidemment, ça va dans le mur. Ça va dans le mur, c'est une évidence. Et Printemps, pareil, il a, entre guillemets, il a une bonne tête d'adjoint quand même, Printemps. C'est-à-dire que de ne pas voir qu'il ne ferait pas forcément un bon numéro 1, il n'y a pas besoin d'être non plus un très grand dirigeant pour s'en rendre compte, quoi.
On va accueillir Tony au 32-16, il est là, supporter des Verts. Salut Tony.
Salut tout le monde.
Salut Tony.
Salut, Tony.
Bon, Tony, qu'est-ce que tu veux faire, toi?
faut virer Printemps, faut virer nos très chers présidents qui savent bien se pavaner quand tout va bien. Oui, on a fait quelque chose de bien, et puis là, voilà, ils ont fait une connerie avec deux trois joueurs qui ont bien fait ce qu'il fallait pour que ce soit Printemps. Après,
bon, sauf que les présidents, ça se vire pas, hein, c'est eux les propriétaires.
Oui.
Je dis sauf que les présidents, ça se vire pas, c'est eux les proprios.
Ouais, mais bon, au bout d'un moment, il va falloir qu'ils passent la main parce que les papis là, ils sont au bout du bout là. C'est bon là, faut réfléchir 5 minutes quoi. Voilà, après on a des joueurs qui veulent, voilà, des joueurs ils veulent, ouais, c'est bien, c'est les joueurs qui décident dans les clubs maintenant. Après je vais pas être innovant en disant que Printemps de toute façon c'est un numéro 2, c'est pas un numéro 1. On a vu avec Bastia comment ça s'est passé. Voilà, après c'est un mec très bien pour être numéro 2, il a été très bien avec Gasset.
Mais voilà, Tony, est-ce que ça tu te l'es dit à la fin de la saison dernière quand on a su que Printemps allait devenir numéro 1. Je me souviens, on était là avec Jérôme,
c'est tous dit,
on était tous sur le cul, on était tous très étonnés, on s'est dit c'est pas possible, ça va pas coller. Vous les supporters, vous êtes dit la même chose ou vous êtes dit bon après tout ça peut vu que ça a marché avec Gasset, il y a pas de raison que ça marche pas.
Non.
Ou est-ce que cette évidence, elle l'était pour tout le monde?
Non, bah tout le monde savait très très bien que ça allait être compliqué, mais on pensait pas que ça allait être aussi compliqué rapidement, j'ai envie de dire. Voilà, après on voit le résultat maintenant et quand tu vois, avec tout le respect que j'ai pour la Gantoise et pour Angers, mais c'est bon quand tu perds contre eux, mais t'as rien à foutre en Ligue 1 quoi. T'as rien à foutre en Coupe d'Europe non plus.
Carrément
quoi.
En Ligue 1, oui.
En Ligue 1 et en Coupe d'Europe quoi. Je veux dire, c'est bon, la Gantoise, club repêché qui veut même pas faire la Coupe d'Europe, ils nous la mettent à l'envers bien comme il faut. Hier, j'en parle même pas, c'est une catastrophe. Comment tu peux faire une deuxième mi-temps comme tu fais hier? Les mecs, ils en ont plus rien à foutre. Même Ruffier, il est en train de relâcher comme il y a 2 ans. Enfin, c'est bon, quoi.
Je suis pas le seul à avoir ressenti ça, alors.
Oui, non, Ruffier, il est pas bien, là.
Parce que moi, Ruffier, c'est le dernier but.
Il a l'image de l'équipe.
Regardez ce qu'il fait, hein.
Je comprends pas.
Et justement,
on passe pour des guignols. Après, les Marseillais s'en plaignaient à une époque, ils n'avaient pas tort, mais je crois que nous, on est pas mal non plus à ce niveau-là. Hein.
Non, mais quand t'es Ruffier, c'est vrai que c'est toujours simple de faire le leader, le bonhomme, entre guillemets, quand tout va bien, mais c'est pas la première fois que ça lui arrive aussi d'avoir des carences à ce niveau-là de leadership. Après, pour revenir sur plus Printemps, il faut savoir que la posture de Printemps l'année dernière, aux côtés de Gasset était en retrait. Gasset disait pas un mot pendant les séances et que c'était Printemps qui animait toutes les séances, qui donnait de la voix. Malheureusement, aujourd'hui, quand t'es joueur et que le numéro 2 passe numéro 1, c'est très compliqué de lui donner un certain respect, entre guillemets. Et c'est pas méchant quand on est joueur.
Mais pourquoi concrètement? Explique-nous ce truc-là, parce qu'on l'a vu plein de fois, mais il y a que vous qui comprenez pourquoi. Le 2, alors que c'est lui qui est au quotidien.
Je veux dire que ça peut s'appliquer à Genesio aussi, ça, par exemple.
Je vais te dire les choses clairement et crûment. Généralement, quand t'es sur le banc ou que t'es pas trop dans les 18, généralement, l'adjoint est quelqu'un qui a un rôle assez réconfortant ou qui te dit, écoute, voilà, ne lâche pas, ainsi de suite. Ce qui fait que tu crois en lui, t'as certaines croyances, tu lui fais confiance. Et lorsque le numéro 2 passe numéro 1, mais que tu vois que toi, ta situation en soi, elle est toujours la même et que ce qu'il t'a dit pendant un an, tu te rends compte que c'est de la flûte et que derrière.
Mais c'est le mec qui colle les pansements, quoi. Puis d'un coup, tu t'aperçois que c'est.
Au bout d'un moment, où peut être la crédibilité? Parce que tu te dis, non, il m'a pris pour un con pendant un an.
Non, mais ça confirme ce qu'on se disait avec Jérôme au moment de la nomination de Printemps, c'est passer numéro 1, en gros, t'es le mec qui prend les décisions. Et à partir du moment où tu prends les décisions, tu n'es pas le même dans le regard des joueurs.
À moins de passer numéro 1, mais dans ce cas-là, dans un autre club, comme l'a fait Gasset avec Laurent Blanc. On voit que ça a été l'adjoint éternel de Laurent Blanc et de Luis Fernandez. Une fois qu'il a été en posture d'adjoint, aussi bien, je me souviens à l'époque, à Istres, ou à Montpellier, ou
même là-bas. Si t'as fermé, si t'as une énorme personnalité, ça peut aussi marcher. Mais là, en l'occurrence, c'était pas ça.
Dans le même club, c'est compliqué.
Tony, merci en tout cas.
Laurent Blanc, je suis pas.
Juste pour ajouter, on a vu que l'exemple de Galtier, c'était un bon exemple aussi. Il a été numéro 2 et on a vu qu'en numéro 1, il s'en sort pas mal, le garçon.
Oui, c'est vrai, Galtier, c'est un contre-exemple.
Oui, mais il y avait une donnée, on le sait bien, notamment à Lyon, en 2008, quand Lyon est champion, c'est surtout grâce à Galtier qui sauve la mise tout au long de la saison et par rapport à Alain Perrin qui tenait plus personne. Donc il avait déjà, mais quelque Galtier, part, le numéro 1 perçait sous le numéro 2, quoi, en fait.
Voilà. Non, à Saint-Etienne, Galtier était numéro 2.
Oui, oui.
Et numéro 1,
oui. Mais au départ, par défaut, hein.
Merci Tony, merci Edouard également toutes ces infos.
Qui est le charisme, la personnalité. Ah oui. Il n'y a pas une règle établie qui dit t'es le 2 du mec, tu deviens le 1, ça ne va pas coller. Non.
Donc je résume.
Il y a moyen que tu t'imposes, mais.
Je résume les infos du jour quand même que nous a donné Edouard. Donc mercredi, ce sera Printemps sur le banc contre Metz. Hein, Saint-Etienne reçoit Metz. Mais après, tout est ouvert.
Saint-Etienne bat pas Metz. Printemps ou un autre,
le Saint-Etienne d'hier, il va pas Metz. Hein.
Ça pue partout. Hein.
Après Metz, la crucifixion.
D'accord.
Merci Edouard.
Oh, voilà, là-dessus, je peux partir.
Voilà, exactement.
Salut Flo.
Salut. Dans quelques instants, on part pas très loin de Saint-Etienne. On va à Lyon. Pourquoi? Parce que Florent veut parler de Silvinho.
Avant Metz, ça sera bien de prier un peu.
Oui, ça peut
marcher.
J'ai un truc comme pour toi là-dessus d'ailleurs.
Ouais, d'accord.
C'est un teasing.
Je vérifie si moi aussi je peux m'aligner sur Flo ou pas.
Attention, faites gaffe.
C'est comme leur jeu, il faut s'aligner.
Tiens, quelques messages sur Direct Studio. J'ai Bella qui nous dit après la première journée de championnat, on s'enflammait. Les Verts avaient gagné. Euphorie de la victoire contre Dijon. Et pourtant, déjà, il y avait les prémices de tout ça. Et puis Kraft qui nous dit moi, messieurs, je viens de Rodez. Oui, mon club réalise un très bon début de saison. Alors, si vous vous intéressez pas à Ligue 2, vous le sauriez. Voilà. On est peut-être une ville paumée et rurale, mais nous, on est tranquille à la campagne et on a l'adrénaline d'un club de foot devenu pro. Voilà ce que vous dit Kraft.
Ils jouent leur match à domicile ?
Au Stadium.
À Toulouse.
Oui, effectivement, ils jouent pas à Rodez.
Du moins, au début de saison. Je sais pas si maintenant ils ont.
Au Stadium de Toulouse en
Ligue 1. Et Kraft, c'est son prénom.
Il y avait du monde d'ailleurs. Il y avait plus de monde au match de Rodez.
Dis-toi, moi, je l'ai vu le Le Mans, le Rodez-Le Mans de la première journée, je l'ai vu.
Voilà, c'est ça, les intervenants de l'after, ils sont
là. Daniel, regarde la Ligue 2.
Le Mans Rodez, t'as.
Qu'est-ce que ça donne, Lorient Rodez, Xavier?
Non, ça donne toujours pas de but, 0-0, 39 minutes de jeu et un match tout à fait cohérent de la part des Ruthénois. Donc, c'est ça, je l'ai pas dit tout à l'heure parce que je savais pas.
Pourquoi c'est Rodez AF, c'est quoi, association
Aveyron Football.
Aviron Football de Rodez. J'ai failli dire les Rodésiens. J'ai échappé belle. Quand même. En tout cas, ils font un bon match, hein, très consistant. Ils font plutôt jeu égal avec les Lorientais, même si Lorient a eu la plus belle occasion. Bien aidé par le vent, un centre qui est un peu plongeant et le gardien est obligé de la claquer en corner. Il a failli se faire surprendre. 39 minutes de jeu donc, toujours 0-0. La mauvaise nouvelle pour Lorient, c'est la nouvelle blessure de Sylvain Marvaux. Il revenait tout juste dans le 11. Son deuxième match, il s'est à nouveau blessé. Marvaux remplacé par Oumout Bozok, l'ancien Nîmois. 6 minutes avant la pause, 0-0.
Juste sur Rodez, d'ailleurs, ce genre de match, pour avoir suivi un peu leur début de saison également, parce que j'étais dans leur coin, il va faire très mal à ce genre d'équipe parce qu'ils jouent clairement en contre. C'est-à-dire que c'est clairement une équipe qui peut faire beaucoup de mal, qui va l'attendre et qui va juste contrer. On fort là-dessus, on verra.
Très bien. On n'a jamais autant parlé de Rodez dans l'after. Voilà, ouais, et ça
je
continue.
Je pense que ça n'arrivera plus.
Et ça continue. Bah non, le match continue, donc on en reparlera. Allez, à tout de suite pour parler cette fois de l'Olympique Lyonnais, bien sûr, et de ce qui se passe après la défaite d'hier soir.
RMC. L'after foot. Gilbert Bribois.
21h29, vous écoutez RMC, l'after est là bien sûr jusqu'à minuit avec Daniel Riolo, avec Damien Périnel, avec Florent Gautreau. Les drôles de l'âme seront là dans une heure environ, Julien Cazard à 23h tout à l'heure. Et tout de suite on parle de l'Olympique Lyonnais, bien sûr, pourquoi ? Parce que Lyon hier a perdu, Lyon a perdu et Lyon a déçu globalement. On va écouter, avant que Florent prenne la parole pour son avis, on va écouter Jean-Michel Aulas, rencontré par Mohamed Bouafsi il y a quelques minutes à peine au fameux trophée The Best organisé par la FIFA. Mohamed est sur place et il est toujours là où il faut, hein, Momo, bien sûr. C'est ce qui fait sa force. Et là, il a vu Jean-Michel Aulas. Écoutez ce que dit le boss lyonnais ce soir à propos de Silvinho.
Il y a une remise en question nécessaire aussi de la part du staff. Et c'est une semaine importante pour vous ou non, il garde entièrement votre confiance et vous laissez du temps aussi.
La confiance est totale. Elle n'exclut pas le contrôle. Et donc, voilà, on va essayer de mettre un certain nombre de choses complémentaires autour de ce qui a été bien initialisé. Silvinho et Juninho ont toute ma confiance, mais il faut avoir des résultats, c'est la loi du foot.
Ah,
petite alerte.
Petit coup de pression quand même.
On se cache.
La confiance,
c'est pas trop normal que la petite pression arrive, et c'était un moment important. Et vu comme la situation est peu reluisante, il était normal que ça vienne.
Et nous enchaînons tout de suite avec l'avis du soir de Florent. Jingle Gautreau.
Renaud Lavillenie va sauter Nico Jamin à Lausanne.
T'as dit ça, toi?
Alors là, je ne croyais jamais avoir prononcé cette phrase.
Bah écoute, voilà.
Ça me dit vaguement quelque chose.
Voilà, Nicolas Jamin, à l'époque, suivait Renaud Lavillenie. Tu sais que Nicolas Jamin était. Il y avait deux journalistes seulement présents à Donetsk quand il bat son record du monde.
Dont
Nicolas Jamin.
Je sais.
Qui avait senti, tu vois, le
record du monde qui arrivait.
Voilà. Qui avait senti le scoop.
Ah, c'est le nez du Bordelais,
c'est ça.
Quelque chose.
Par contre, à Survivor.
Survivor, il est déjà.
Il a sauté tout de suite. Alors, il a voulu miser
pour Survivor. Oui, non,
je parlais de Juninho et de Lyon.
C'est là que Nicolas Juninho, avait eu cette fameuse phrase magnifique. Chie maître chaise. Sous les yeux du tchar.
Du tsar Boubka, oui, Boubka, effectivement.
Du tsar Boubka, bien sûr.
Je voulais parler de Lyon. Et vous savez qu'à Lyon, il y a. On a coutume de dire qu'il y a la colline qui sue et la colline qui prie, la Fourvière et la Croix-Rousse. Et là, en ce moment, c'est plutôt la colline qui se fait suer et la colline qui prie pour que ça change.
Oui.
Voilà. Je voulais commencer par ça parce que je pense que l'ancrage lyonnais est important. Voilà. Premièrement. Deuxièmement, Silvinho. Silvinho, en fait, justement, je parle de l'ancrage lyonnais à dessein parce que ce qu'il fait bizarrement, c'est qu'il va un peu à rebours de ce qu'est. Moi, je pense que on croit tous, je pense ici à. L'idée que il y a une identité quand même dans un club, une identité de jeu, une identité, et celle de Lyon.
Au minimum une tradition.
Une tradition où t'aimes quand même aller plutôt de l'avant à Lyon. T'as des équipes quand même qui aiment jouer au ballon. T'as des joueurs de ballon. On a eu ça, y compris avec la filière brésilienne. Et donc en réactivant cette filière brésilienne, Juninho, Silvinho. Avant tout Juninho, c'est vrai. Tu te dis que t'es dans l'esprit a priori, t'es dans l'ADN du club. Et Juninho envoie des signaux qui vont contre tout cela. Et c'est vrai que son début de saison, à part le tout début, mais là, c'est cette évolution récente, est assez inquiétante. Et là, je veux bien dissocier Juninho de Silvinho, puisque je pense que le choix en DS, en directeur sportif, il n'y a rien à dire. Et le recrutement, d'ailleurs, est plutôt pas mal. Non, ce qui est inquiétant, c'est les signaux négatifs. Justement, sur cette culture du jeu. Ce qui s'est passé hier, c'est assez curieux. Même les mots de Denayer hier à la fin étaient assez bizarres. On a senti qu'il y avait une incompréhension parfois même entre le coach et Koné sur les consignes, sur
un OL qui est plus défensif qu'il a jamais été. Je me remémorais les deux OL PSG de la saison passée, y compris la défaite de l'OL au Parc. Mais si on regarde bien ce match de la défaite de l'OL au Parc, c'est un match où Touzard est expulsé à la 45e, mais où l'OL, pendant une heure, fait jeu égal ou même mieux et joue et fait du jeu, mais bloqué par cette infériorité numérique, c'est déjà compliqué contre le PSG. Ils explosent à la fin avec, je crois, un triplé ou quadruplé de Mbappé dans le dernier quart d'heure. Et ils perdent 5-0. Et au retour, l'OL, toujours contre le PSG, gagne 2-1, un très, très beau match. Et l'OL, se donnait les moyens, prenait, entre guillemets, les risques nécessaires pour aller au combat, ce qui hier n'était pas le cas. C'est-à-dire qu'hier, l'OL n'aurait jamais pu gagner le match. Ils auraient pu ne pas le perdre, mais jamais ils n'auraient pu le gagner. Donc, ce signal qu'envoie Silvinho, c'est, on n'a pas confiance. On a peur. J'ai pas de fondamentaux. Et en tout cas, je vais pas dans ce que sait faire ce club, dans ce qu'est la culture du club. Donc, premier signal négatif. Ensuite, le signal d'un Silvinho qui lui-même a été un latéral brillant et plutôt moderne, qui demande à ce que ses latéraux ne bougent pas, qui, quand ils le peuvent, un peu plus comme hier avec le 3-5-2, finalement dit à Koné d'arrêter à un moment donné. Il y a un truc sur ses latéraux qui est complètement fou, pareil quand tu joues dans une équipe comme Lyon. Le coaching de Silvinho, ensuite, autre signal négatif, soit inexistant, soit tardif, soit carrément inquiétant. Alors, je vous parle pas à chaque fois des remplacements de Geoffrey d'Adélaïde par Touzard. Mmh. Et quand même hier, encore une fois. Alors hier, on peut peut-être le comprendre pourquoi, mais c'est quand même aussi un signal. Dembélé sur le banc, je crois que c'était face à Bordeaux. Enfin, des trucs assez, assez curieux, qui sont effectivement, là aussi un signal qu'il envoie à ses joueurs. Et en gros, qui dit, y compris contre, je crois que c'était à Amiens, l'OL mène 2-1 et il se passe rien dans la deuxième période. C'est-à-dire que ça, c'est pas du tout l'OL. Il n'y a aucune volonté de marquer le troisième but et évidemment, arrive ce qui doit arriver à la fin, c'est que l'OL encaisse un but. Il y a 2-2, c'était contre Amiens. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a un divorce, je trouve. Enfin, divorce, le mot est peut-être fort. Hein. En tout cas, il y a une séparation dans le vestiaire, entre le coach et les joueurs, technique et mentale. C'est-à-dire que moi, je pense que les joueurs ne comprennent plus trop. Les mots de Denayer étaient bizarres à la fin du match parce qu'il a dit, ouais, on n'a pas mis ce qu'il fallait pour ce genre de match. Paganelli le relance sur Canal en disant, c'est bizarre parce que ce genre de match, normalement, on n'a pas besoin de se motiver. Et Denayer dit, si, on était motivés, on était. Ah oui, mais si vous étiez motivés, alors c'était quoi le problème? C'était le système? Vous n'avez pas confiance dans ce qui est mis en place? Bien, je pense qu'il y a un souci. Et puis, dernier point.
Oui, là-dessus, je te coupe. Ouais. Silvinho a remis une petite couche sur ses joueurs hier. Hein. Hier soir tard, en réaction de match, là, en zone d'interview, il dit moi j'attendais plus d'implication. Enfin, en gros, c'est.
Moi, je trouve que, vu le
système. Il l'avait déjà fait, je reprends juste ses mots exacts. Il dit ça manquait de conviction pour agresser l'adversaire. Je voulais agresser l'adversaire, mais ça a été difficile.
C'est ce que j'entends par une forme de début de divorce, dans le sens où, effectivement, moi, je crois que le système, la façon, la mentalité insufflée n'étant pas celle que les joueurs attendent, il y a une sorte de doute et d'incompréhension. Deux points pour finir. Le physique, il y a un problème physique. Il y a des joueurs qui, au bout de 30 minutes, sont... Alors, Aouar a été cramé très rapidement. Et il y a un problème physique global à l'OL. Donc, ça aussi, c'est le staff. Hein. C'est peut-être pas Silvinho seulement, mais enfin, c'est son staff. Et j'en reviens au choix des coachs par Aulas. Les coachs récents, si vous regardez bien. Alors là, j'exclus
donc. David Daniel.
Ouais, après, c'est terminé. Juste le choix des derniers coachs, regardez. Genesio. Sur l'expérience récente qui précède.
Moi, je trouve, tu vois, c'est pas bien ce que tu as dit. Tant que c'est intéressant, il n'y a qu'à faire long. C'est un peu foutre.
Je suis d'accord avec Daniel. Ah ouais?
Belle tactique de soutenir ton pote pour justifier tes longueurs.
Absolument pas. Alors, si ça avait été chiant, j'aurais déjà coupé depuis une heure.
Donc un dernier mot sur les coachs qu'il a choisi récemment. Genesio et sa faible expérience du haut niveau. Tout le monde la connaît, Villefranche, Besançon, j'ai plus les exemples. Hubert Fournier, plutôt Ligue 2 avant d'arriver à la Ligue 1. Rémi Garde, faible expérience également. Silvinho, faible expérience.
Fournier venait de Reims, pour être très précis.
Reims, ils étaient en D1 à l'époque.
Ils étaient en D1.
Il a beaucoup d'expérience en Ligue 2 dans son CV. En gros, je veux dire, pas un coach à la fois à grosse personnalité et à gros CV, y compris quand il vient d'étranger, comme c'est le cas de Silvinho. Est-ce que c'est ça le problème? Parce que c'est quand même Lyon et l'OL, et c'est quand même l'équipe qui est censée rivaliser avec le PSG. J'ai des doutes sur Silvinho, vous l'avez compris.
Damien, es-tu d'accord avec Florent?
En partie, mais pas surtout. Là, pour rebondir sur ton dernier point, il me semble que Silvinho, c'est donc Juninho qui l'a choisi, d'après ce qu'a dit Aulas, il me semble. Mmh. Hein. Mmh. Et je veux bien croire que pour cette fois-ci, Aulas a donné les pleins pouvoirs à Juninho pour choisir son coach.
Mais comme il le dit, il contrôle.
Mais maintenant, voilà, forcément, il va jeter un œil. Après, quand on est un jeune entraîneur, c'est sa première expérience, en plus de ça, dans un gros club. Le plus important, c'est, je pense, de développer des croyances au sein des joueurs. Le problème qu'il a aujourd'hui, c'est que de développer des croyances quand tu gagnes pas des matchs, les ouais. joueurs, ils ont du mal à croire en ce que tu fais et en ce que tu proposes. Quand tu me parles des fondamentaux de jeu à la lyonnaise, moi je me souviens que Juninho était très ambitieux au début, que je pense que son ADN de jeu, lui, c'est plus ce qu'il a vécu à Manchester City certainement, où tu dois presser, aller très haut sur le porteur, récupérer des ballons hauts, un jeu plus vertical. Et puis surtout, après, si on fait une référence au match d'hier, c'est surtout techniquement où ça a été catastrophique au niveau des prises de balles, des passes, des prises d'infos de la part de Lyon. Donc là, je voudrais dédouaner Juninho. C'est pas simple, ouais, de
Silvinho.
De créer des principes de jeu en trois mois, quoi. Et c'est vrai que c'est assez récent.
Surtout quand il les remet en question hier soir, puisqu'il avait annoncé 4-3-3.
Mais justement,
pas tant que ça. Mais j'y viendrai. C'est un point que je veux aborder, moi.
Et même au-delà de ça. Ces fondamentaux de jeu, tu peux pas les mettre en place en trois mois, c'est pas possible. En plus de ça, je pense qu'il s'est rendu compte aujourd'hui vraiment des joueurs, de la qualité intrinsèque des joueurs qu'il avait en place, dans son effectif. Et en effet, pour venir physiquement, bah aujourd'hui, il faut courir, il faut presser, il faut harceler le porteur, il faut jouer haut, est-ce qu'il a les joueurs pour ça? Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il s'adapte maintenant par rapport à son effectif.
Daniel, d'accord ou pas avec Florent ?
Non, mais peu importe. Il y a plein de trucs qui sont très intéressants et je pense que c'est en tout cas les pistes de réflexion à mener. C'est celle qui nous met sur le tapis. Après, Damien complète et moi aussi, je trouve qu'il y a un problème en fait. C'est que ça peut pas être aussi net. Un mec peut pas venir. D'abord, juste initialement dire, il y a un seul choix d'Olas, c'est Juninho. Juninho a ensuite choisi le coach. Le seul choix d'Olas, c'est vraiment.
Je suis d'accord. Juste alors une parenthèse. Si vraiment Olas veut dire, oulala, ne prends pas un coach inexpérimenté qui connaît pas le truc, il a le droit.
Il a le droit, mais en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est.
Il valide.
Je prends Juninho parce que j'amorce une sorte de révolution et le peuple va aimer et le peuple a aimé et aime encore l'idée que Juninho revienne au club. C'est le dieu vivant de l'OL. Il y a pas de problème. Il vient, il choisit le coach. Risque pas risque. On a vu des coachs sans expérience réussir des choses. Il a quand même fréquenté. Quand t'as été à ce point tout près du haut niveau, que ce soit avec la sélection, avec des clubs, enfin bon, il l'a vu de près le très haut niveau. Le mec vient avec un discours qui est franchement pas du tout, en harmonie avec ce qu'on a vu hier soir, par exemple, ou ce qu'on a vu ces derniers temps. Le mec, c'est pour ça que je dis qu'il y a un problème et que je sais même pas si on peut le résoudre pour l'instant. Tu peux pas parler comme t'as parlé, énoncer tes principes de jeu, dire « Ah, on va pas jouer en 4-3-3 avec un mec comme Touzard ». Bon, se reprendre après parce que c'était un peu violent de l'avoir dit comme ça. Et ensuite, proposer ce que t'as proposé. Ça veut dire, et Damien a peut-être raison, il est en train de se rendre compte qu'il y a des choses qu'il ne soupçonnait peut-être pas. Est-ce que c'est une certaine mentalité qui est difficile à introduire dans un club français au niveau du travail, des volontés de pressing, ce genre de choses-là? La fameuse autorité qui est toujours un peu compliquée. Ça, ce problème-là, moi, ça m'interpelle. C'est-à-dire, tu peux pas avoir ces idées et ensuite qu'il ne se passe rien. Donc, il faut peut-être laisser l'analyse, voir ce que va donner son travail avec un petit peu plus de temps. C'est très inquiétant. Maintenant, hier soir, franchement, moi, je crois qu'il est face à un PSG qui est à un moment...
Injouable.
Vraiment, à un moment, les Parisiens étaient tous dans les 30 mètres lyonnais. C'est rare, un pressing. Je réponds
à juste ce point-là.
On est obligé de faire la pause. Ensuite, Daniel pourra conclure.
Moi, il faut que je termine.
Ouais, mais tu vas pouvoir terminer. Mais sauf qu'on a une pause à faire. On n'a pas le temps. Lorient Rodez, c'est la mi-temps 0-0. Et je vous signale, je ne vous l'ai pas dit encore, qu'on vous fait gagner ce soir ça. Alors, ça, tout le monde le veut. C'est FIFA 20.
C'est pas que tout le monde le veut, c'est qu'il me le faut. Je te signale qu'il y a un défi qui se prépare, là, annoncé depuis au moins un an. Ça va se faire sur FIFA 20 et si je ne l'ai pas, je peux m'entraîner.
Donc sur FIFA 20 sur PS4. Donc si vous voulez le gagner avant tout le monde, vous envoyez dès maintenant FIFA au 732-16. FIFA au 732-16, bonne chance à vous dans quelques instants.
Il faut qu'on finisse
Lyonnais,
là-dessus. Hein.
Évidemment, revient dans l'after tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Gilbert Bribois.
Avec Damien Perrinel, avec Florent Gautreau, avec Daniel Riolo, bien sûr. L'after est là, c'est reparti entre Lorient et Rodez. Le score, Xavier.
Oh, les buts l'orienté à l'instant, magnifique frappe de Johan Wissa. On est reparti depuis 28 secondes. Petite percée Plenac, c'est la frappe flottante qui retombe sous la barre. Le gardien de Rodez qui n'a pas bougé. 1-0 donc pour les Merlus qui prennent pour le moment donc 3 points d'avance en tête de la Ligue 2.
Parfait. Daniel, tu peux finir ta démonstration sur l'OL. Ensuite, on accueillera Bilel au 32-16.
Attends, je voulais juste te répondre sur le point. Non, mais d'accord, j'ai entendu tout ce que tu as dit sur Sylvignon, on peut pas juger. Sauf que lui, il a une arme quand même qui est le coaching. En cours de match, on voit pas beaucoup de choses se passer.
Absolument.
Ça, c'est une arme qu'il n'utilise pas. Donc, enfin,
on a, absolument, on a le sentiment qu'effectivement, il est même perdu. Et c'est pour ça que j'ai pas encore d'explication claire à cette différence entre le propos, entre les mots et l'acte. Tu vois, c'est ça. Hier, quand j'ai vu la compo, moi, j'ai trouvé que face au PSG, c'était une bonne idée.
Pourquoi pas, ouais. Je suis d'accord.
Je trouvais que c'est une bonne idée parce que t'as Anderson qui est pas très rassurant depuis le début de la saison. Qui d'ailleurs, quand le bloc a été bas, était plutôt pas mal. Preuve aussi que peut-être ce joueur doit être découvert et envisagé autrement. Et c'est que c'est peut-être pas un bon choix dans une équipe qui doit dominer. Que c'est plutôt un défenseur de bloc bas. Est-ce qu'il y a eu bon recrutement de ce côté-là? C'est à voir. Idem Marcelo, tant qu'il a été là, dans un registre un peu limité, mais n'empêche qu'il a bien fait chier Neymar. Et que d'ailleurs, Neymar a marqué quand? Après que Marcelo soit sorti. Et pourquoi c'était plutôt une bonne idée? Parce que j'ai dit, ok, les trois comme ça contre le PSG, c'est normal, ils vont prendre des rafales de pressing, de machin. Si les deux dans les couloirs vont se mettre dans le milieu de terrain, et que dans ce milieu, t'as quand même Aouar, Thiago Mendes, Memphis et Dembélé, avec Dubois qui peut monter, bah, il y en a de la technique, il y en a des joueurs. Sauf qu'à l'arrivée, on n'a rien vu. À l'arrivée, on n'a rien vu. Et t'as vu un bloc qui n'a eu de cesse de reculer. Alors, il recule parce qu'il est pressé à mort par un PSG qui a rarement été aussi intense de ce côté-là.
Il recule parce que aussi, Lyon n'a pas su deux, trois fois les transpercer en contre.
Absolument.
Comme tu dois être capable de le faire avec des joueurs techniques.
Exactement.
Normalement.
Parce qu'il ratait les passes, ils n'arrivaient pas à transmettre entre eux. C'était terrible.
Oui, bonsoir.
Salut Bilel. Oui, bonsoir. Merci d'avoir patienté.
Je t'en prie. Non, mais écoutez, moi je vous écoute attentivement. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Daniel. C'est vrai que moi j'étais au stade hier avec mon gamin et j'ai trouvé qu'on reculait bloc bas, on reculait. Et puis on sait très bien qu'une équipe comme Paris, systématiquement, si tu recules trop, ben tu te fais allumer quoi. Neymar, il a fait un super match. Honnêtement, hein, moi je vais très 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 souvent au stade. Paris hier, ils étaient injouables. Honnêtement.
Ouais, je suis d'accord.
Franchement,
ça on l'a pas assez dit.
Alors, j'ai été impressionné hein, parce que les Marquinhos, les Thiago Silva, les Di Maria, j'en parle pas. Lui, à chaque fois qu'il joue, il fait la misère. Mais hier, il s'est baladé.
Permets-moi, excuse-moi, Bilel, juste une seconde. Il faudrait, je pense que ce sera facile à faire pour les gens qui sont avec nous, qui ont l'habitude de collaborer et de nous envoyer les infos. Lyon a beaucoup réussi contre le PSG ces dernières années dans le match à Lyon en deuxième partie de saison. J'aimerais savoir si, quand le match a eu lieu en première partie de saison, ça s'est passé de cette façon.
Ouais,
à quel moment
faux,
le match du PSG à Lyon s'est passé après élimination Ligue des Champions, avant, dans quel genre de contexte?
L'an dernier, c'était en février.
Le PSG a été... c'était...
Non, c'était avant l'élimination, en tout cas. De mémoire, c'est début février, je crois, le Lyon PSG, me semble. Hein. 5 février.
Je pense que ça doit pas être exactement la même chose quand même. Enfin, faut voir.
Hier, pour être honnête avec vous, on était quand même 55 000 au stade, il pleuvait, on s'est dit, franchement, il y a un coup à jouer. Avec tous les, si tu prends pas Paris maintenant, fin septembre, avec tous les blessés qu'il y a, si tu prends pas Paris maintenant, honnêtement, la cote, elle était belle. Hein,
mais Bilel, est-ce que c'est pas pour ça? Ouais, justement, est-ce que c'est pas pour ça que ce que moi je mets en relief, c'est pas ce que dit Daniel. Daniel dit finalement il faut attendre parce qu'il a, et Damien aussi, il faut un peu de temps. Il y a une différence entre les discours et les joueurs qu'il a, peut-être.
Je sais pas s'il faut un peu de temps. Je dis que pour l'instant, je ne comprends pas
le curseur plutôt sur le côté psychologique, ce que disait Damien Mandé, c'est-à-dire ce que tu transmets à tes joueurs. Moi, j'ai l'impression qu'il leur transmet un truc qui fait qu'il n'y a pas eu ces contres, il n'y a pas eu cette confiance dans leur technique.
Réponse de Bilel là-dessus.
Alors, le truc, si tu veux, c'est que moi, j'ai rarement vu, je te dis, je vais à tous les matchs, Genesio, tu le voyais jamais debout, il s'assoit, il se relève, il s'assoit, il se relève. Il a passé le match
debout à hurler. Hein. Il a passé le match de Sévigno, il a passé le match debout à hurler. Après, le problème, c'est que est-ce qu'il y a un problème de compréhension ? Je sais pas. Je sais pas pourquoi un mec comme Cachapa, qui parle très bien français, pourquoi il n'est pas près de lui pour à la limite échanger avec certains joueurs, parce qu'il appelait beaucoup de joueurs, il essayait d'échanger avec eux, mais t'as l'impression que des fois la communication elle passe pas très bien. Tu sais, c'est pas anodin hein, quand en conférence de presse Silvino il dit que il aimerait parler le français, il aimerait s'exprimer avec sa voix, etc., de façon à se faire comprendre. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai problème de communication. Je sais pas si un mec comme Cachapa, s'il serait plus près du terrain avec lui, ça pourrait pas aider certaines choses. Mais puis après, physiquement, on était cramés. Un mec comme Aouar, je l'ai rarement vu comme ça. Un mec comme Aouar, j'ai rarement vu comme ça. Après les coachings, je te parle pas du remplacement de Adélaïde. Tout le stade, on n'a pas compris pourquoi il sortait, alors que c'était le mec le plus dangereux sur le terrain. Après, t'as des mecs à côté de nous qui sont cramés aux échauffements, comme Traoré. Il a passé le pauvre trois quarts d'heure à s'échauffer comme un malade pour entrer 6 minutes à la fin. Non, il manque quand même un milieu de terrain. Il manque quelqu'un qui crée un peu le stade. On s'est pas enflammé en fait.
Il manque Fekir, tu veux dire en fait.
Ça a poussé pour enflammer.
Non, le milieu de terrain de Lyon est assez faible. Ça, c'est une réalité. Ça.
Bon, faut qu'on s'arrête là-dessus. Bilal, j'ai un petit cadeau pour toi. On va t'envoyer.
Merci les gars. Et quand vous voulez, vous revenez à Lyon. Vous avez reçu avec le Cécy Foot à Brignais. Après, on avait fait partie de l'équipe de Daniel.
Ou ça. Attends, j'ai raté un truc.
Quand on était à Brignais, au grand café des, on avait passé des super soirées.
Ouais.
Donc vous revenez quand vous voulez, les gars.
Ah oui, c'était à côté de Lyon. Mais ça date, ça, à côté de Lyon.
Ah, mais c'est exceptionnel.
Tout le monde s'en gardait du PSG, là. Super
non, n'oublie
sympa.
Pas, on est fidèles, on est tout le temps là, nous. Hein.
Bon, dans ce cas-là, saucisson brioché. Bilal, comment s'appelle cet ancien gardien qui tient 62 Casagrande, voilà. Casagrande,
Dominique Casagrande.
Vous nous avez super bien reçus.
Et c'est là où il y avait Grenier qui était tout gamin.
Exactement.
Il avait à peine joué en pro encore, qui était venu nous voir.
Et qui avait du mal à s'exprimer.
Ah, ça date, hein, putain, c'était 2010.
Ah, il y avait Julien Cazard qui avait fait le bordel aussi.
Oh putain, bien. c'est le soir du traumatisme Mourinho. C'est le soir où Barça colle 5-0 au Real de Mourinho.
Ah bon?
Ouais, ah, ce soir-là.
Ouais.
Bilal, petit cadeau pour toi. J'ai deux places pour le dernier Rambo, Last Blood.
Le dernier sang.
Avec Sylvester Stallone, Ludovic Obraniak et Jonathan Bacardi.
Une petite dédicace à mon fils Yannis, s'il vous plaît, qui vous écoute.
Ça marche.
On l'embrasse.
Bisous à toute la famille.
Merci les gars.
Salut Bilal. Le PSG au programme dans quelques instants. Damien veut en parler. On vous attend au 32-16, bien sûr. Il y aura les drôles de l'âme. Et la Ligue 2. 1-0 toujours pour Lorient face à Rodez après 53 minutes. À tout de suite sur RMC dans l'After.
RMC, 21h minuit.
L'After Foot.
Hello, Sunil Patel here. This is a set performed by me at the Cavendish Comedy Club in London.
Hello. So I get the idea of saving as well. You're supposed to like make good decisions now for your future self, but like I just don't think that guy deserves it. Like, what's he done for that? He hasn't earned that money. I've earned that money. He's done nothing for it. I've earned that money, so I'm going to keep it because I like nice things.
Well, here's a message from your future self. It's easier to save if you do it the day you're paid. Payday Save Day. Building a society of savers nationwide.